Jeudi, le 15 du mois de décembre 2022, déjà 7 heures, on a moins 7 degrés chez La Fournière. Bonjour.
Bonjour.
Deux femmes offrent une maison pour Noël à un grand-papa et sa petite grenouille.
Au mois d'octobre dernier, la radio CAGA-FM vous présentait l'histoire d'un grand-papa de 65 ans qui élève seul sa petite-fille de 6 ans à Bowman. La roulotte dans laquelle il vivait était considérée comme insalubre. Il n'en fallait pas plus pour que deux bonnes samaritaines viennent en aide à grand-papa et à la fillette qu'on appelle affectueusement « petite grenouille ». Julie Clément et Véronique Beaudoin ont décidé de construire une maison à M. Sioui et à sa petite grenouille. Rien de moins, pour ce faire, elles ont fait appel à la générosité de la population. Un GoFundMe a été mis sur pied et plein d'entrepreneurs ont donné temps et matériaux. Même Béton Brunet de Maniwaki a participé. La maison s'est construite à un rythme fou. À partir d'un certain moment, on a demandé à M. Sioui et à sa petite grenouille de ne plus entrer dans la maison pour garder l'effet surprise lors du dévoilement, comme le confirme Julie Clément.
Elle m'avait vu un petit peu, jusqu'à temps qu'on leur dise de plus aller dans la maison parce qu'à un moment donné, on voulait que ça soit une surprise aussi. Donc, elle n'avait pas vu comme une fois finie. Elle n'avait pas vu sa chambre complétée, tout ça.
C'est d'abord grand-papa qui est entré dans la maison lors du dévoilement. L'émotion était palpable. Les larmes de bonheur et de joie ont vraiment coulé lorsque la petite grenouille a découvert sa chambre.
C'était très touchant. On l'a filmé, en fait, en rentrant dans la maison. Par la suite, la petite grenouille est rentrée pour venir voir sa chambre. C'était un autre moment très touchant. Les larmes de joie, un soulagement, toutes sortes d'émotions pour tout le monde.
La maison s'est vraiment bâtie en un temps record, le but étant que M. Sioui et sa petite-fille passent le temps des fêtes dans leur nouvelle demeure. Julie Clément relate à quel point tout s'est passé à une vitesse fulgurante.
Les gens, les contracteurs, les fournisseurs, la générosité a fait que par, mettons, fin septembre, on a fait la démolition de la maison, puis 27 novembre, à peine deux mois après, grand-papa et sa petite grenouille ont pu entrer dans leur nouvelle maison. Fait que deux mois, mettons, de la démolition aller à la finition.
Mesdames Clément et Beaudoin tiennent à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce beau projet. Grand-papa et sa petite grenouille passeront assurément un beau Noël.
Le budget 2023 à Denholm est marqué par une hausse de 15 %.
La municipalité de Denholm a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2023. Il s'agit d'un budget équilibré d'un peu plus de 3,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 500 000 dollars par rapport à l'an dernier. Le maire de Denholm, Gaëtan Guindon, parle de cette augmentation.
C'est un budget cette année avec une augmentation au budget d'opération de 15 % comparativement à l'année dernière. Il faut comprendre que les augmentations viennent principalement des coûts qui ont augmenté au niveau de l'essence diesel pour les camions, ce qui a presque doublé.
Les salaires des employés municipaux ont aussi augmenté. La renégociation de leur contrat de travail est intervenue dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de rétention des employés qualifiés qui répondent bien aux besoins de la municipalité, comme a souligné le maire. De plus, la municipalité a dû faire face à une hausse de coûts des matériaux de construction et des matières premières. Le taux de taxe foncière est passé de 1,07 $ par tranche de 100 $ d'évaluation à 92 cents pour l'année 2023. Dépendamment du dernier rôle d'évaluation foncière, l'évolution du taux de taxes foncières pourra se traduire par une baisse pour la majorité des résidents ou une augmentation parfois importante du compte de taxes. Du côté des services, c'est la tarification pour la vidange des fosses septiques qui a été revue, comme l'explique Gaëtan Guindon.
On était à 100 $ par unité de logement par année pour 2 ans pour les permanents et on a monté ça à 150 et on était à 50 pour 4 ans pour les unités de logement de villégiature et on a monté ça à 75 $.
La compensation pour l'enlèvement, l'enfouissement et la gestion des déchets, du recyclage et du compostage reste comme l'an passé à 205 $ par unité de logement occupé ou non.
En terminant, il y a ce projet de loi C-21 qui ne fait pas l'affaire des communautés autochtones.
Le projet de loi C-21 qui vise à bannir les armes d'assaut au Canada fait présentement l'objet d'un processus d'examen approfondi par un comité multipartite. Selon Sophie Châtel, députée de Pontiac, l'un des objectifs de cet examen est de faire en sorte que des armes utilisées pour la chasse sportive ou de subsistance pratiquées par les communautés inuites et des Premières Nations ne soient pas impactées.
le gouvernement est en train vraiment de consulter spécifiquement sur les amendements récents au projet de loi C-21. Les armes qui sont utilisées de manière traditionnelle là, pour la chasse continuent de pouvoir être utilisées. Donc ça, c'est le premier objectif des consultations en comité avec plusieurs experts qui vont venir témoigner devant le comité de différents types d'armes et de leur utilisation.
Cette mise au point survient à la suite d'une résolution adoptée par l'Assemblée des Premières Nations en lien avec le projet de loi C-21. L'organisation a exprimé son opposition au projet de loi. Le chef de la communauté de Kitiganzibi, Dylan White Duck, était présent sur place. Il a mentionné que pour les Premières Nations, l'arme à feu est davantage considérée comme un outil que comme une arme. D'autres aimeraient voir le droit des Premières Nations de pratiquer la chasse être protégé par la Constitution. Les chefs demandent également que les Autochtones soient adéquatement consultés sur cette question. Mme Châtel nous explique le travail colossal que doit réaliser le comité d'experts.
Il y a des amendements, il y a une liste de plus de 300 pages avec plusieurs modèles. Le travail des experts en ce moment, c'est de passer au travers cette liste-là et de s'assurer que effectivement, il n'y a pas d'armes qui sont utilisées pour la chasse.
Aucune date n'a encore été arrêtée quant au dépôt du projet de loi C-21 sur le bannissement des armes d'assaut.
Excellent, Sheila. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on surveille à l'agenda aujourd'hui? Deux, trois choses. Hein?
Oui, deux, trois petites choses. Il y a la séance publique du conseil d'administration du CISO. C'est en visioconférence, on peut s'y brancher. Et c'est à 17h ce soir. On doit par contre confirmer sa présence avant 16h si la chose vous intéresse. Et puis il y a aussi facilement là, visible sur le site là, du Centre intégré de soins et de services.
OK.
Puis, il y a aussi ce plan de développement de la zone agricole, celui qu'on a appelé le PDZA,
oui.
Plus intimement depuis quelques
ouais.
mois. Il y a la MRC qui vous envoie cette invitation. C'est à la salle du conseil de Gracefield. C'est à 19h. Évidemment, on va s'ajuster là, en faveur des conditions météo, clairement. Et puis, il y a aussi la bibliothèque J.R. Lheureux qui vous invite à la présentation des romans de Jean-François Chabot et Mélanie Soucy. C'est aujourd'hui de 17h à 19h sous la forme de 5 à 7. Et la présentation elle-même se fera sur le coup de 18h.
On se retrouve dans un moment.